know you're a feminist.
It was not a compliment.
Nous considérons que l'acte de procréation est un acte de liberté.
They wanted to silence one Malala, but instead, now thousands and hundreds and millions of Malalas are speaking and they're fighting for their rights.
Il n'y a rien de pire que le viol.
On se lève et on se casse.
Bienvenue sur Charbons Ardents, votre rendez-vous du midi, tous les deuxièmes jeudis du mois. Pendant une heure, Chat et Mareuil vous parlent tous les mois des sujets qui fâchent. En partant d'un témoignage sur les violences quotidiennes, on décryptera ensemble un exemple médiatique avec à la clé des outils pour comprendre le militantisme d'aujourd'hui. Charbons Ardents, c'est sur Prune 92 FM et c'est maintenant.
20 ans avec mon conjoint et il y a 3-4 ans, j'ai commencé à me poser des questions sur ma sexualité. Je sentais que je ne regardais plus les femmes de la même façon. Et puis un jour, à une soirée, une femme est entrée, je l'ai désirée tout de suite. Il ne s'est rien passé avec elle, mais après ça, je me suis dit que j'avais envie d'avoir une expérience avec une femme pour confirmer ce ressenti. J'en ai parlé à mon compagnon et nous nous sommes inscrits sur un site de rencontre libertine. Nous avons rencontré des femmes, des couples, nous avons ouvert notre sexualité, nous vivons des choses très fortes avec certaines personnes, d'autres avec qui ce sera juste une histoire d'un soir. Moi, au fond de moi, je sais, je sens que j'ai envie d'une relation avec une femme, une relation qui serait une amitié, quelque chose de fort, de bienveillant, de doux. Si on m'avait dit, il y a quelques années, que j'aurais ce type de sexualité, je ne l'aurais pas cru. J'ai vécu les douleurs liées à l'adultère quand j'étais ado. Pour moi, un couple était monogame, il ne pouvait pas y avoir plus de deux personnes. Finalement, je me rends compte que le fait de rencontrer d'autres personnes nous a rapprochés, mon mari et moi. Le libertinage n'est pas indispensable à notre vie, mais de temps en temps, ça fait du bien de faire des rencontres, d'éveiller les sens d'une autre façon. Je me sens encore plus libre et libérée dans la sexualité. J'ai toujours aimé le sexe, ma libido a connu des hauts et des bas, mais en découvrant, en explorant ma bisexualité, j'ai redécouvert des endroits, des façons de faire que je n'avais pas exploitées, que nous n'avions pas exploitées. Je ne dis pas que ça a été facile de déconstruire toute une vie que je pensais tracée, établie, mais il fallait que je le fasse. Je sentais que je n'étais pas vraiment complète, que quelque chose me manquait. Mon entourage n'est pas au courant, ça fait partie du domaine privé. Si un jour je rencontre une femme pour qui je ressens des sentiments amoureux, qui fera pleinement partie de ma vie, j'en parlerai, mais pour le moment, seules deux amies sont au courant. Elles ne jugent pas, elles envient même cette façon de voir le couple. Je trouve ça grisant de se préparer pour un rendez-vous, de voir dans les yeux de mon compagnon que je suis jolie, la petite lueur de fierté que sa femme se fasse belle pour un ou une autre lui plaît, me plaît. J'ai redécouvert aussi ma féminité, je ne me trouvais pas spécialement attrayante et lorsque je vais à des rendez-vous, je vois bien que je plais, que c'est comme quand j'étais ado et c'est très excitant. Je pense effectivement que nous sommes plusieurs de notre génération à ressentir cette envie de liberté, de nouvelles expériences, de déconstruire ce que nous avons appris, acquis de nos parents, du système.
We're gonna burn this patriarchy down!
Dans Tout feu, toute flamme, on fait le plein de munitions théoriques pour que les auditeuristes de Charbons Ardents puissent faire feu de tout bois, se comprendre, se défendre et démonter les diktats comme on démonte un meuble Ikea, la migraine en moins.
Aujourd'hui, on se penche sur la Saint-Valentin, qui s'apprête à nous tomber dessus comme un gros cupidon joufflu qui aurait brutalement percuté le jet de Macron, histoire de bien achever de nous plomber le moral.
4, 3, 2, 1.
La Saint-Valentin, c'est joie, c'est bonheur, c'est injonctions à consommer et surtout sa pression pour être en couple. Et en couple heureux par-dessus le marché. Car derrière cette fête commerciale ridicule, il y a plus qu'une histoire de chocolat et de fleurs ou de restos réservés aux couples midi et soir.
Alors oui, ça c'est vraiment une vraie histoire. On vous refusera d'accès à une table si vous venez seul le 14 février, c'est arrivé à un de mes potes, donc parfaitement normal.
Après la frénésie des fêtes, après la dépression de janvier, la société capitaliste adore en rajouter une couche de glaçage pour bien finir l'hiver en vidant nos bourses et en déprimant allègrement.
célébrer le couple en nous réclamant d'ouvrir notre portefeuille.
Et de contribuer à l'absurde consommation de fleurs qui n'ont rien demandé à personne en plein dérèglement climatique.
Nous demander tout ça, c'est avant tout faire du couple en fait un synonyme de succès. Et donc en face, du célibat ou autre alternative, un signe d'échec cuisant. Alors aujourd'hui, niveau ambiance sonore, on vous a sélectionné des grands classiques absolument géniaux pour danser le slow, qui font l'apologie du couple à tout prix. Je souligne sur le « à tout prix » parce que ce prix, ça peut aussi être violence et féminicide à la clé.
Oui, le gros lot. Tout plutôt que le célibat. Please, dans l'émission du jour, on vous propose de vous intéresser au comment du pourquoi la société tient tellement à nous maquer et aux mécanismes culturels qui nous amènent à croire que notre indépendance passée 25 ans, ce serait la big lose.
Mais oui, bah bien sûr, ça, hein, parce qu'en vrai, être chez soi en pyjama pilou à hurler du Céline Dion en buvant du vin blanc au chaud, c'est quand même vachement plus merdique que de se regarder dans le blanc de l'œil à pas savoir quoi se dire pendant deux pénibles heures dans un resto à 30 balles le menu. Hein.
Tout ça fait. Nos alliés du jour seront Pauline Armange avec « Moi, les hommes, je les déteste », Lucille Quillet dans « Le prix à payer, ce que le couple hétéro coûte aux femmes », et l'ouvrage collectif « Nos amours radicales » de Léane Alestra, Anaïs Bourdet, Sabrina Eringin, Lou Ève, Axel Jeanne Jiquet, Sharon Omankoy et Emanuela Todorova. On souligne par ailleurs qu'on va surtout théoriser ici sur les personnes cis, puisque dans le cas des personnes non-binaires ou trans, il y a à minima un début de déconstruction de la binarité des relations et de la différence entre l'inné et la sociabilisation depuis l'enfance.
Alors si vous aussi vous avez passé les fêtes à recevoir de superbes remarques sur votre célibat, ou sur l'état actuel de votre couple d'ailleurs, entre deux constats angoissants que oui, tonton Léon compte vraiment voter Zemmour, et que oui, cousin Pierre croit vraiment à Nouna quand il dit que les féministes veulent avant tout tuer des hommes.
Si vous aussi, on vous serine la liste des prochains mariages et des dernières naissances de vos cousines anormales, en espérant vous donner envie, pendant que vous préférez avoir la paix plutôt que d'avouer à vos parents qui ne comprendraient pas que vous êtes asexuel, célibataire perpétuel, en trouble, polya, bel et bien en couple, mais gay.
Alors sortez vos stylos de bonnes élèves pour savoir quoi leur répondre la prochaine fois qu'ils ouvrent leur claque-merde par le traditionnel. Et côté cœur, et pour commencer, un petit historique de la Saint-Valentin.
Tabarnak, saint de beauté.
Céline, on t'aime, tu ne seras jamais all by yourself.
La Saint-Valentin prend racine dans le syncrétisme habituel du catholicisme. Le syncrétisme, c'est la fusion de plusieurs religions, mais c'est rarement consenti. C'est quand un colonisateur veut s'assurer que la population annexée ne se rebellera pas trop en maintenant leurs fêtes, leurs traditions, mais en leur donnant une nouvelle signification, de nouveaux noms. En gros, ils gardent les dates, mais ils disent « à nous ».
Classique shit pour un colon.
Exemple de ça, le 25 décembre, c'est la fête du solstice d'hiver dans beaucoup de cultures, et c'est devenu la date de naissance de Jesus Christ, histoire d'obliger les gens à la fêter s'ils voulaient garder leur teuf de base.
Du coup, ce que les cathos concrètement ont fait avec la Saint-Valentin, c'est ça. À la base, le 14 février correspond à une vieille fête romaine avec bouc et jeunes gens à poil, plutôt sympatoche, qui s'appelle les Lupercales. L'idée, c'est de sacrifier un bouc sur un lieu lié à Rémus et Romulus. Un prêtre met du sang sur deux mecs en pagne de peau de bouc, et ils se mettent à courir dans les rues en fouettant toutes les meufs qui veulent avoir un gosse. Normal.
Oh my god, cette image mentale. C'est bien connu que notre seul rêve dans la vie, c'est d'expulser un braillard de 2,5 kg et de ne plus dormir pendant 2 ans. Ça mérite bien de se faire fouetter.
Indeed.
Quand le christianisme s'empare de cette date, ils en font la fête d'un martyr qui s'appelait Valentin de Terni, un prêtre super rebelle qui bénissait des mariages à une époque où les Romains voulaient non seulement empêcher les cathos de se reproduire, mais aussi réduire les mariages pour motiver les mecs à partir à la guerre. Du coup, Padre Valentin est envoyé en prison où il séduit une aveugle.
Totalement sain.
Avant de se faire buter pile poil le 14 février, ça tombe bien.
Notons l'usage d'un mot perdu pourtant assez indispensable de notre vocabulaire historique, le valentinage. C'est une vieille coutume médiévale selon laquelle les femmes pouvaient avoir des relations sexuelles hors mariage une fois par an.
Et ouais, une journée de la femme pour 364 journées de l'homme, rien ne change.
On remarque ici la fâcheuse tendance qu'a le patriarcat à nous refiler les miettes. On nous trompe toute l'année, mais c'est pas trompé parce qu'un homme a des besoins.
Et il faut bien pratiquer le viol de guerre au nom de la nation.
effectivement, chat, je ne te savais pas si nationaliste.
Urgh.
Mais bon, du coup, arrête de râler, bobonne, tiens cadeau, va niquer quelqu'un le 14 février. Alors évidemment, la tradition n'a pas plu des masses à l'église.
Ni au mec pas du tout possessif.
Du coup, on a remplacé l'autorisation de s'envoyer en l'air pour les femmes par des boîtes de chocolat et des bijoux, propageant d'ailleurs par là l'idée que les femmes sont superficielles et aisément corruptibles, hein, le mythe de la michto, et qu'elles préfèrent le sucre et l'argent au cul. Illustration sur l'adultère avec le retour de notre pote Sardou, la crème de la crème.
La crème de la merde.
Vas-y Michel, on t'écoute.
Mais non, je ne t'ai pas trompé, je l'ai trouvé jolie, je n'ai fait que rêver, je n'ai rien fait de plus, sinon de l'embrasser. Ça n'arrivera plus d'ailleurs, elle ne m'a pas aimé. Mais non, je ne t'ai pas trompé, elle ne m'a rien promis, elle ne m'a rien donné. Demain, je tournerai la page de mon livre d'images et j'oublierai. Ce n'était qu'un orage, nous recommencerons.
Bah enfin oui, c'est pas trompé si elle a pas voulu de lui.
C'est pas grave, je lui ai juste roulé une pelle et je t'ai oublié, tu vas pas nous chier une pendule, oh.
En plus ça doit faire mal. Perso, je préfère la version 68 avec la flûte à bec en fond sonore, cette chanson vaut vraiment pas mieux qu'un cours de musique de 6ème. Enfin, Sardou à part, si on fait un chouïa d'histoire, on se rend compte que le délire d'idéalisation du couple, c'est finalement assez récent dans l'histoire de l'humanité. Rappelez-vous, on en a déjà parlé.
Previously on Charbons Ardents.
En devenant sédentaires et en développant l'agriculture, les êtres humains se seraient mis à croire que tout est dans la graine, et donc dans la couille, et que la terre, par extension, le ventre féminin, ne participe en rien à la fertilité.
Première source d'explication de la monogamie, c'est ce désir des mâles de s'assurer que la brioche qu'ils mettent au four est bien la leur, pour être certain que leur héritage restera dans leur précieux gène. Donc la femme leur appartient, mais pas par amour, c'est pour avoir un incubateur à domicile.
Et de fait, l'idéalisation du couple comme unique objet de roman, de poème, de conversation au bar et unique objectif de vie, c'est plutôt récent dans l'histoire de l'humanité. Ça devient vraiment une obsession au 19e siècle, on l'avait évoqué lors de notre 3e épisode sur l'histoire du consentement, et encore, l'art ne met en scène que des amours contrariés et sources de souffrance. Madame de Lafayette écrit d'ailleurs « Je suis si persuadée que l'amour est une chose incommode que j'ai de la joie que mes amis et moi en soyons exempts. »
Casse dédie la meuf.
Je sais pas pourquoi, mais je l'entends comme McGonagall dans Harry Potter.
De l'amour, on en avait plein les dents aussi avant. Hein. Mais si on schématise grossièrement dans l'histoire de la pensée humaine, on peut constater que l'Antiquité, le Moyen-Âge, l'humanisme au XVIe siècle et le XVIIe, en fait, voient les passions amoureuses plutôt comme néfastes, malsaines. Et en fait, ils les considèrent même comme antisociales, puisque la butte du couple empêche l'harmonie avec le reste des autres citoyens. On est plutôt à ce moment-là, dans ces siècles-là, sur une survalorisation de l'amitié comme valeur suprême, parce que c'est plus sociable. Bien sûr, c'est amitié virile, hein, évidemment, parce que les meufs sont trop occupées à être traitées comme des animaux pour avoir des potes, apparemment. En termes d'amitié, on est sur l'amitié entre l'Éraste, un gosse pubère de moins de 19 ans, et l'Héromène, qui est un pote de son père. Et ce pote l'initie dans tous les domaines, y compris sexuel. Mais on peut aussi penser plutôt au XVIe siècle en France, à la Boétie Montaigne. D'ailleurs, Montaigne écrit à propos de son pote « parce que c'était lui ». Parce que c'était moi. On est plutôt sur un délire homo-érotique de connexion artistique intellectuelle, puisque de toute façon les femmes n'ayant pas accès à l'éducation, elles sont ennuyeuses, donc ils parlent qu'entre eux, avec un petit brin de touche pipi. On est plus là-dessus à cette époque-là que sur les grandes histoires d'amour hétérocentriques et monogames qu'on connaît désormais comme ayant le monopole dans notre conditionnement.
Et oui, parce qu'aujourd'hui, l'injonction au couple,
qui pèse avant tout, attention, sur les femmes,
étonnant, ça commence très jeune. Qui ne s'est jamais entendu dire, petite, « Alors, t'as un amoureux ?» dès la maternelle. On s'extasie sur les petits hétéros qui se tiennent la main. On encourage les manifestations particulièrement violentes d'intérêt des garçons vis-à-vis des filles, quand ils leur tirent les cheveux et soulèvent leurs jupes. On est saisi d'effroi à tout rapprochement qui pourrait signifier une potentielle homosexualité. À cette fatidique question « Une petite fille, t'as un amoureux ?», vous faites peut-être partie de ces punks progressistes, wokistes, islamo-bobo-gauchistes qui osent rajouter « ou une amoureuse » et s'entendent très souvent répondre par les parents « Oh, on parle pas de malheur !»
Très vite, on va inciter les petites filles à rêver de leur mariage et de la fameuse robe de mariée hein, qui est calquée sur les robes de princesse qu'on voit dans les dessins animés, bien sûr. Très pratique. Là où, par exemple, en fait, le costume de mariée, c'est un copier-coller de sa tenue de travail, de nouvel an et d'enterrement. Donc, assez versatile. La robe de mariée, c'est tout un business lucratif et hyper gaspillant qui va derrière. Et donc, un objet de fantasme qu'on impose à l'imaginaire très précocement. Là où les Action Man ou les Power Rangers ne seront jamais vendus avec l'option costard de mariée, les Barbie, les poupées, elles ont toute une collection de robes blanches meringues qui va très bien avec le reste de leur attirail consumériste, hein, maison, voiture, bébé et chien, toute la dinette. On trouverait ça hyper étrange de voir un garçon organiser une cérémonie de mariage entre son Spider-Man et un de ses Lego. Par contre, ça nous apparaît parfaitement normal que les nounours d'une petite fille soient au minimum paxées et fiancées, tu vois. Par ailleurs, en leur montrant que l'amour, c'est une valeur suprême, et en leur disant d'ailleurs des tout-petits qu'ils sont le fruit de ce fichu amour sacré, faut pas s'étonner ensuite que les enfants soient traumatisés par les divorces, alors que les divorces touchent pourtant plus de 50% des unions. Donc, ce serait intéressant d'avoir plutôt un conditionnement très jeune qui dit que peut-être l'amour va pas durer toute la vie, mais que voilà, c'est pas une catastrophe si ça arrive. Parce que par-dessus le marché, ça crée une hiérarchie de cours d'école entre les gosses de parents toujours mariés et ceux de parents célibataires, parents divorcés ou enfants adoptés. Parce qu'il y a derrière cette idée que net, c'est devenir l'incarnation vivante de l'amour qu'on voit absolument partout.
On agite alors un épouvantail très vite, celui du célibat à éviter comme la peste, épouvantail réservé aux femmes puisqu'il apparaît normal qu'un homme mène sa carrière et s'amuse jusqu'à ses 40 ans, question d'horloge biologique paraît-il. Puisqu'ils peuvent se reproduire plus longtemps et qu'ils ont obtenu le droit inaliénable de se taper de plus jeune qu'eux sans se faire traiter de cougar ou de milf, autant qu'ils profitent pendant qu'on s'entend dire dès notre vingtaine « Alors, hein, quand est-ce que tu nous fais un bébé hein ?» Tandis qu'eux ont leur garçonnière, concept sans équivalent féminin, la société invente alors les figures exclusivement féminines de la Catherinette, de la vieille fille, de l'éternelle demoiselle d'honneur et de la cat lady qui vit parmi ses vieux journaux avec ses 40 chats et leur pipi à l'ammoniaque.
À la vie, à la muerte, le temps passera plus vite qu'hier. Le soleil se couchera dans la vallée, la lune sortira une bière. Je t'aime. À la folie. Passionnément. À l'ammoniaque.
Face à ces figures bien connues, on en trouve une autre, réservée aux hommes, c'est celle du canard. Un homme, en fait, en dehors du couple, c'est juste un homme, normal. Un homme en couple qui trompe ou qui a la fameuse phobie de l'engagement, c'est encore et toujours un homme.
Ou un sardou !
Ça n'existe pas encore, mais on va le breveter. Mais un homme qui se comporte de manière décente, fidèle au contrat passé entre les membres du couple, ouvertement amoureux, avide d'engagement, attentif à l'autre, en somme, un mec qui se comporte comme on attend des femmes qu'elles se comportent, c'est un canard, un pauvre type dont ses potes peuvent se moquer allègrement. Un homme qui ne vous bat pas, qui ne vous viole pas, et qui fait de temps en temps la vaisselle quand vous le demandez. C'est l'homme parfait. L'inverse, c'est juste une femme. Bon, construction ici des difficultés des hommes à s'engager, difficultés qui sont ensuite considérées comme normales et sources de fierté, construction aussi de la nécessité à refouler émotions et sentiments, à ne pas communiquer, sous peine de se voir traité de quoi ? D'oiseau qui cancane, se dandine, à l'habite en terre-bouchon et fait caca partout.
Ça fait rêver. Ceci dit, éviter de donner du pain à un canard, ça fait gonfler le bide.
Comme la bière avec celui des mecs. Notons pour finir sur cette analogie de nos imaginaires que le canard fait partie des nombreux mâles violeurs, puisque sa quéquette en tire-bouchon est le résultat de siècles d'évolution pour contrer les tentatives des femelles d'échapper à un coït violent, donc le bad. L'évolution, c'est ça aussi, c'est que du bonheur. Toujours dans ce ping-pong entre concept exclusivement féminin d'un côté et concept exclusivement masculin, quand une meuf ne veut pas de vous en couple, on parle de friendzone.
Mais bizarrement, quand un mec ne vous veut que pour du cul, on ne parle pas de fuckzone. Notons qu'une meuf qui ne voudrait de vous que pour baiser est un concept plutôt alien. On comprend alors qu'en grandissant, les relations de domination, les dynamiques entre garçons et filles s'enracinent dans cette idée que, si les hommes leur courent bel et bien après, ce n'est cependant que pour du sexe. Mais que leur objectif à elles, c'est d'être en couple et de retenir à tout prix le marin, le héros, le chasseur, le chevalier, le guerrier, l'explorateur. Tout l'ensemble de ces modèles anti-canard WC qui ne demandent qu'une chose, se barrer. Au passage, ce modèle existant n'est que hétéro.
Et que monogame, et que pour les filles.
Tiens, tiens, comme c'est étrange. S'il vous prenait, messieurs, la mauvaise idée de rêver à votre robe, votre djellaba ou votre kilt de mariage, gare à vous. Quant à l'infinie possibilité des configurations d'orientation sexuelle et aspiration individuelle, elles n'ont pas leur place dans nos archétypes transmis depuis des siècles. Ni les contes, ni les romans, ni les épopées ne font de place à un autre modèle que un papa, une maman. Si la diversité commence à apparaître aujourd'hui dans les films et séries, vous faites peut-être partie des malheureux et malheureuses qui se sont entendus dire par des proches que c'est du lobbying, de la propagande et que c'est dangereux parce que ça risque de contaminer les enfants. Et oui, c'est bien connu, l'homosexualité s'attrape comme le Covid en se postillonnant dans la bouche. Pire, elle se choisit parce que c'est bel et bien un choix de vie facile à assumer et même la cause de génocide anti-hétéro depuis des siècles.
Bah oui, Charles, Jonathan Van Ness en relookant des rednecks fait 10 fois plus de ravages. Il commet d'ailleurs beaucoup plus de crimes que Roman Polanski, Harvey Weinstein ou Morandini dans les faits. LOL.
Mais JVN quoi, tu sais parler à mon cœur toi.
Une petite touche musicale d'invitation au féminicide, Little Girl. Alors, obsédée par le devoir d'être en couple qu'on lui impose très jeune, la femme se retrouve désormais à consacrer du temps, de l'énergie et de l'argent à la réalisation de ce projet pour lequel elle semble être née.
Lucille Quillet, dans Le prix à payer, ce que le couple hétéro coûte aux femmes, souligne que la taxe rose est surtout orientée vers la conquête, puis la conservation de ce mâle fuyant. Épilation, maquillage, coiffure, vêtements.
Les femmes gagnent pourtant en moyenne moins que les hommes, mais elles payent beaucoup plus pour les conquérir parce qu'on leur a dit que c'était ce qu'elles devaient faire, sinon c'est que des ratés.
Avant de sortir, les mecs se parfument les aisselles avec du Axe et sortent leurs plus beaux t-shirts, parfois même il est propre, si si. Mais les mises en scène cinématographiques de la préparation des femmes soulignent bien le travail conséquent et les sommes qu'elles doivent y consacrer.
Pourtant, pendant qu'elles sont occupées dans la salle de bain, phénomène d'ailleurs que les mecs moquent régulièrement.
Ah, les filles à la salle de bain !
Mec qui demande d'ailleurs des aisselles imberbes, alors je le demande, pour qui, pourquoi ? Vont-ils y fourrer le nez, les doigts ou la queue ? Que peuvent bien leur faire nos poils soyeux ? Nos poils qui sont bons pour la peau, qui ne bandent rien à personne quand on doit se faire arracher la peau du menton par leur barbe de merde. Pendant que les femmes sont occupées donc à cette contraignante préparation, qui demande beaucoup de contorsion, bah elles ne sont pas à se détendre, elles ne sont pas à se cultiver, à se renseigner, à réfléchir, à s'investir dans les domaines publics que sont la politique, l'économie, etc.
Le couple coûte donc très cher aux femmes, et ça ne va pas aller en s'arrangeant une fois qu'elles y sont. Renonçant pour certaines à travailler, elles s'insèrent alors dans des cadres de dépendance financière extrêmement risqués quand on voit le nombre de divorces et la précarité dans laquelle se retrouvent les femmes divorcées, qui sont plus de 71% à assumer la garde des enfants.
Mais à un moment donné, je ne connais pas son parcours de vie à cette dame. Qu'est-ce qu'elle a fait pour se retrouver au SMIC ? Est-ce qu'elle a bien travaillé à l'école ? Est-ce qu'elle a suivi des études ? Et puis si on est au SMIC, eh ben, faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là. Si tu veux, à un moment donné, quand on se rajoute des difficultés sur des difficultés et des boulets sur des boulets, on se retrouve dans des problèmes.
Voilà l'image que la société véhicule des femmes, alors que ce sont pourtant elles qui travaillent en moyenne le plus au sein du cadre du couple. Lucille Quillet note que 72% des tâches domestiques de base sont réalisées par les femmes. Une fois que s'installe la vie commune, les femmes vont jusqu'à assumer 7 heures de ménage par semaine en plus, là où les hommes en gagnent 2 en moins. C'est du délire.
Et là, en fait, on parle du couple sans enfants pour le moment. Alors quand on fait les comptes, on en vient à se dire qu'il faudrait repenser la définition du travail. Certaines militantes parlent d'un salaire pour les femmes qui, en fait, quand elles assurent le bon fonctionnement du foyer, elles permettent aussi à leurs conjoints d'évoluer professionnellement et donc de contribuer au bon fonctionnement de la société indirectement.
Mais carrément, les calculs sont pas bons. Et quant aux femmes nombreuses qui travaillent et qui doivent pourtant faire face à cette augmentation de leur charge domestique, elles voient aussi un impact du couple dans leur vie professionnelle à partir du moment où il y a des enfants. Il faut alors des cadres pros qui vont accepter les grossesses et des carrières qui permettent d'aller chercher les lardons à 17h et de les garder le mercredi après-midi. Rares sont les papas qui assument cette partie-là du contrat. Dans un pays où le congé paternité ne proposait jusqu'en juillet dernier que 11 pathétiques jours calendaires, donc entre 7 et 9 jours ouvrables. Depuis 2021, la durée a doublé, mais c'est toujours pas ça comparé à nos voisins européens.
Un jour je l'ai vu, j'ai tout de suite su que qu'on allait devoir faire ces jeux absurdes. Bijou, bisou et le tralala, Modou et Kuba, insultes, coups, etc. Non, non, pas les miens mais les siens, oui. Notre enfant deviendra aussi le sien ensuite. Enfin c'est le juge qui insistera, j'imagine. Imagine-moi, télé sous le bras et mes jeans sales et puis tout ça. Je l'aime à mort mais pour la vie, on se dira oui à la vie, à la mort. Et même en changeant d'avis, même en sachant qu'on a tort, on ne changera pas la vie. Donc comme tout le monde, je vais en souffrir jusqu'à la mort.
C'est qui est
je voudrais être son nom.
Le couple donc c'est cher. Pire peut-être, c'est inhibant et enfermant pour les femmes. Donc il ne nous prive pas juste de nos moyens financiers, il nous prive aussi de notre ingentivité. La gentivité, c'est la capacité à agir, c'est le champ d'action. Tel qu'on nous le vend, en plus d'invisibiliser une partie conséquente de la population, les gens qui ne sont pas en couple et donc pas bien acceptés, le couple est en fait aussi un laboratoire de domination de la femme. C'est le lieu où va s'enraciner notre exclusion du champ politique. Pendant qu'elle est occupée à gérer le foyer, pendant qu'elle est aussi occupée à gérer les conflits et les diktats du foyer, les femmes n'ont plus d'énergie pour s'insérer dans les mécanismes de gestion de la sphère publique et collective. Donc c'est à ce moment-là que s'efface le jeu de la femme pour devenir le nous du couple. Ici, on va citer Pauline Armange dans « Moi, les hommes, je les déteste » où elle écrit
« Pour les femmes, il y a une nécessité à être en couple, parce qu'une femme seule n'a pas autant de valeur aux yeux du monde qu'une femme qui appartient à un homme. On imagine les femmes célibataires et sans enfants égoïstes et aigries, quand leurs consœurs mariées et mères ont toute la liberté d'exercer leur générosité et leur douceur naturelle. On déploie beaucoup d'énergie à persuader les femmes qu'être en couple avec des hommes est la chose la plus bénéfique qui soit pour elles, et elles se laissent convaincre, car le spectre de la vieille fille à chat flotte, sinistre, sur leur existence de célibataire. »
Moi, je suis pas contre être une vieille fille à chat. Alors, on voit très bien ce ressort de la disparition du jeu féminin. On va en donner un exemple dans Sex and the City. Donc, c'est une série qui met en scène la quête d'amour comme seul et unique ressort de conversation, d'action et de mise en beauté de la femme. Alors que les hommes ont leur série où ils peuvent s'entretuer, ils résolvent des enquêtes, ils grimpent les échelons professionnels ou politiques, ils découvrent laborieusement l'eau tiède, où ils font de sanglantes mais miraculeuses interventions chirurgicales sous l'œil bienveillant d'une infirmière admiratrice et un peu sassy.
Alors, je fais un aparté, mais quand même, Sex and the City, c'est une série où on est censé avoir 4 meufs en personnages principaux. Je suis sûre que le test de Bechdel, où les femmes doivent pas parler des intérêts amoureux, il y a aucun épisode qui le passe, quoi. C'est ouf. Bref, dans Sex and the City, donc, un personnage se laisse amadouer par un mec qui commence toutes ses propositions par « us », c'est-à-dire « nous », au point que la bande d'amis parle de la catégorie des « us guys », des mecs qui disent « nous », comme une bande de manipulateurs qui savent très bien que ce genre de ressort fonctionnera pour conquérir une gonze. Constat affligeant. Une fois fusionnée dans le « nous », la femme devient au service de l'homme, du bon fonctionnement du couple, de la résolution des disputes, de la communication dont il est « le pauvre, incapable ». Entre en scène notre némésis, la charge mentale.
Pas elle, cette vieille biatch. Alors si vous n'en avez pas encore entendu parler parce que vous vivez dans une grotte et ça, on cautionne totalement, la charge mentale, c'est un principe de sociologie, principe qui explique très bien comment les femmes ont une partie de leur énergie et de leur pensée perpétuellement occupée par les tâches ménagères, leur planification et leur réalisation. Quand rarement un homme se charge d'une partie, souvent genrée d'ailleurs, type bricolage plutôt que lessive, jardinage plutôt que couche, c'est parce que la femme doit constamment lui rappeler ce qu'il a à faire, décider à sa place et répondre à son fameux « et on les supporte plus, que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? T'as besoin d'aide ?» Alors, hé les gars, c'est pas de l'aide en fait, c'est de la participation. Vous n'êtes pas en train de nous aider, c'est nous qui vous aidons. Et participer du coup, c'est pas nous aider, c'est aider tout le monde.
Or, la charge mentale, bah, ça empêche de réfléchir. C'est plus difficile de se concentrer sur la découverte du remède contre le cancer ou d'écrire le prochain prix Pulitzer quand il faut se rappeler de rappeler à quelqu'un d'acheter du PQ ou quand on se dispute avec un gros bébé de 35 ans qui trouve que c'est pas si grave de pas faire le lit puisque bah, finalement on va se recoucher dedans le soir. Si vous voulez avoir une explication claire, nette et éclairante sur la question, on ne saurait que trop vous recommander de lire, relire et faire lire la BD d'Emaclite sobrement intitulée « La charge mentale ».
En plus de cette fameuse charge mentale, la femme se voit aussi assigner ce qu'on appelle la charge émotionnelle. Comme les mecs sont éduqués très petits dans le modèle du Clint Eastwood taciturne, trop occupé à mâchonner un brin d'herbe pour s'exprimer, bah du coup, ça revient à la femme d'aller tirer les vers du nez du mec pour le bon fonctionnement collectif et social constamment instauré par la vie commune. C'est chiant de faire ça. C'est ultra fatigant. Ça nous met en colère. C'est une colère qui, en plus, est alimentée par une société qui se fout de notre gueule, ne nous paye pas assez, nous rabaisse, nous traite en inférieur, nous viole, nous agresse régulièrement, nous harcèle dans la rue. Du coup, on est fâché. Et en fait, on passe pour des harpies qui veulent toujours discuter pendant des heures au lieu de baiser, qui sont toujours irritées, mal lunées, aigries. On aimerait vous y voir, en fait, habiter avec une porte de prison qui ne dit jamais ce qu'il pense et qui nous laisse la charge de deviner, c'est crevant. Et puis en plus, un mec à qui on tire pas les vers du nez, c'est dangereux. Viol conjugal, violence conjugale, féminicide, c'est autant de mots qui menacent les femmes au sein d'un foyer qui est pourtant censé être leur bulle de sécurité. Donc si vous savez pas ce que le mec pense en face de vous, vous êtes en position aussi d'instabilité et de crainte.
139 000 femmes victimes de violences conjugales, enregistrées, hein, en 2020, 125 assassinées par leur partenaire ou ex la même année en France. Ça donne envie. Un mec qui ne communique pas, c'est aussi un mec qui en voudra à la meuf de ne pas avoir deviné ce qui n'allait pas, d'en être la cause par un raccourci logique délirant dont ils ont le secret, juste parce qu'on les a éduqués à croire que c'était sexy de la fermer et canard de s'exprimer. Il y a donc un enjeu de survie pour la femme à assumer une charge émotionnelle éreintante qui l'oblige à s'oublier en étant surattentive à son partenaire. Le pire dans tout ça, c'est que les mecs nous reprochent de ne plus baiser quand on est en couple alors que c'est en grande partie de leur fait. Plusieurs études américaines récentes révèlent que l'épanouissement sexuel du couple est davantage manifeste quand l'homme et la femme se livrent à une répartition juste des corvées ménagères. Et ouais, plus d'excuses.
Donc le couple, c'est coûteux, c'est contraignant, c'est inhibant et en plus ça peut être dangereux. Donc une excellente idée finalement de lui avoir donné sa fête spéciale chaque année. En plus du reste, il est ultra normé. Le couple est exclusif, il est monogame et surtout il est coincé dans l'hétéronorme. La conclusion sans surprise de bien des penseuses aujourd'hui, c'est qu'il est extrêmement difficile finalement d'être féministe et en couple hétéro. Parce que à tout ce qu'on vient de dire se rajouterait la charge mentale de devoir déconstruire un mec en faisant de la pédagogie, donc ça c'est écrasant. Et encore, faut-il tomber sur un mec qui veut vraiment se déconstruire ? Alors déjà, il n'y en a pas beaucoup qui veulent se déconstruire, mais parmi ceux qui veulent se déconstruire, est-ce qu'ils le veulent vraiment ? La plupart se méfient de l'étiquette féministe, ils adorent aussi retourner la situation en victimisation et finissent par revenir à des comportements violents quand ils sont frustrés par nos revendications. Beaucoup de féministes en couple le sont depuis des années. Elles disent que si ça devait s'arrêter, elles ne trouveraient pas un autre cis-het avec qui se remettre. Donc c'est un peu un constat très déprimant. Quant aux autres, elles vont osciller entre célibat subi, choisi ou lesbianisme politique.
Et en effet, on nous fait croire depuis des millénaires que le couple c'est hétéro, que ce qui est naturel c'est un papa et une maman, comme si tout devait être orienté vers la procréation. Et si on suivait cette logique, on n'aurait que des rapports pour avoir des bébés et rien d'autre. Chambre à part et jamais de coup d'un soir, de Kama Sutra et de sexe oral. Faut être cohérent jusqu'au bout, les gens. Alors, sortir de l'hétérosexualité, oui, mais pour aller où ? Faudrait-il comprendre que l'hétérosexualité, contrairement au spectre des sexualités LGBTQIA+, est un choix ? Eh bien non, mais un peu quand même. Juliette Drouard ne répond d'ailleurs pas à la question. Il propose des clés pour déconstruire ce que l'on pensait acquis et inventer de nouveaux possibles. Pour enfin vivre dans une société égalitaire qui produit des personnes plutôt que des hommes et des femmes, condamnées de fait à la violence systémique. Une société qui repense la manière de faire communauté, de cohabiter, d'aimer, de baiser, de procréer, d'être parent avec qui l'on veut, comme on veut.
Si on veut.
Tout à fait. Et tout ça, sans sexisme.
Éteignez tous ces projecteurs et pressez pour vous y prater. Non, je ne vais pas m'envoler. Dis ton curé, dis ton pasteur, ta guérite aille se faire pendre. Le diable est passé de bonheur et mon âme n'est plus à vendre. Et si vous me laissez cette nuit, à l'aube, je vous donnerai ma vie. Et à quoi me servirait ma vie sans elle? Je n'étais qu'un fou et par amour, elle a fait de moi un fou d'amour.
Ouch les oreilles, attention aux acouphènes. Alors si l'on conclut, le 14 février, on célébrera un prêtre détourneur d'aveugles et à travers lui, un modèle ultra restreint de couple oppressif pour de nombreuses catégories et source d'inégalités sociales.
Ouais, mais le chocolat quoi. On encouragera des injonctions contradictoires, la nécessité transmise dès l'enfance aux filles de former le plus vite possible un couple comme signe de réussite sociale et facilitateur financier, mais qui sera refusée aux individus qui sortent des normes et des diktats.
Il mérite l'exclusion pour ne pas être aussi fou d'amour qu'à l'idée, aussi attentif que Sardou, aussi tendre que Trintignant. Vive l'amour monogame hétéro qui ne fait que des heureux et des heureuses, et vive la France! Et pourtant, aux surprises, Armand cite un chercheur en sciences comportementales à la London School of Economics qui s'appelle Paul Dolan et qui constate, attention, aux surprises, que les femmes célibataires et sans enfants vivent plus longtemps.
Purée, mais c'est vrai que c'est bizarre. Elles auraient donc plus d'argent, plus de temps, moins de migraines et moins de risques de se faire péter les os. Et ça les rend heureuses! Elles sont culottées quand même, hein. Plus d'une princesse de conte de fées doit se retourner dans son cercueil de cristal en entendant ça. Et pour le mythe du jour, on va parler d'un couple, non?
En effet, chat. Ou plutôt d'une meuf dans un couple.
Ou de ce qu'il en reste. Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you alive. Just like animals, animals, like animals, moles. Maybe you think that you can hide. I can smell yourself for miles. Just like animals, animals, like animals. Ouh, comme il est mélodieux d'écouter une voix nasillarde de chanteur accro à la gonflette te susurrer qu'il va te chasser comme un animal dans un clip de boucherie. Je crois que je préfère encore les sons de canard.
Merci Maroon 5 pour la vision de l'amour angoissante que tu nous transmets. Il était une fois Alceste, la plus belle des filles de Pélias. Alors bon, Pélias est un autre trou de cul dont la mythologie a le secret. On l'a déjà croisé quand on a parlé de Médée, parce que notre héroïne favorite viendra lui faire un petit coucou sanglant et convaincre ses propres filles de le découper et de manger ses couilles.
Bye Pélias !
Revenons à Alceste, donc c'est la plus belle pour changer. Si bien qu'Admète, un autre roi du coin qui a rendu service à ce crevard d'Apollon, obtient l'aide du dieu pour épouser Alceste.
Comme d'hab, la meuf n'a rien demandé. Comme d'hab, elle est un objet utilisé ici en récompense. Bon.
Effectivement. Donc Apollon est super reconnaissant uniquement quand il s'agit d'un mec, hein, bien sûr. En plus de l'aider à conquérir la meuf, il lui rajoute un petit bonus. Il lui offre d'être averti du jour de sa mort et même de pouvoir l'éviter si quelqu'un accepte de prendre sa place. Donc BG quand même. Mais quand le jour arrive, parce que tout le monde doit bien y passer, Admète a trop pas envie de mourir. Ses parents, qui sont pourtant vieux, refusent de se sacrifier.
Oh, les nuls hein.
Du coup, bah c'est qui s'y colle? Alceste.
Ah bah on croit rêver.
Le mec ne l'en empêche même pas.
L'ordure.
La meuf est tellement en pleine charge mentale qu'elle se contente pas de repriser les chaussettes du mari, elle prend aussi sa place aux enfers. Toujours dans la charge mentale, c'est finalement Perséphone et pas son mari qui acceptera de la laisser remonter parce qu'elle est touchée par ce geste d'amour.
On voit encore une fois dans ce mythe que l'idée, c'est bien le sacrifice du jeu au nom du nous, mais seulement pour les gonzes.
La culture, c'est comme la confiture, ça met des couleurs et du sucre sur du vieux pain rassis. Choisissez bien votre parfum pour pas que ce soit écœurant. Dans Charbons Ardents, on va clasher des stéréotypes culturels qui continuent à nous laver.
Encrasser plutôt.
Ah oui, effectivement, encrasser le cerveau. Quand on croit se distraire pépouze en pyjama rance dans une fusion totale avec notre canapé.
Bien évidemment, on ne pouvait pas parler du couple et de la Saint-Valentin sans évoquer notre sujet culturel phare, la comédie romantique, ou rom-com pour romantic comedy. Alors oui, on en a déjà parlé pour You, qui se déguise en comédie romantique pour parler d'un stalker libraire. On en a parlé pour la grossophobie parce que maigrir serait la clé du couple et grossir sa porte de sortie.
Alors que c'est prouvé qu'on grossit comme Jaja quand on est en couple parce que le temps atténue les hormones, notamment la dopamine, qui nous donne ces fameux papillons dans le vide pendant la période baptisée lune de miel, quand même l'haleine du matin de notre nouveau crush nous paraît sentir la rose. Alors pour compenser la progressive baisse de dopamine quand on commence à s'habituer à l'autre et qu'on voit de plus en plus ses défauts, on se met à bouffer, donc lâchez-nous la grappe avec les histoires de poids.
Oh, calme-toi Mareuil, on a déjà clashé la grossophobie le mois dernier, garde-en un peu pour la couplophilie s'il te plaît. Mais moi, je me réjouis d'avance de parler de ça parce que j'adore les regarder, ces rom-coms. Et un peu aussi m'en moquer avec ma meilleure pote le dimanche soir devant un bol de chirashi.
Moi aussi, ou plutôt en mangeant des space cakes. Et généralement, j'enchaîne après avec une période film d'horreur pour compenser.
Mais c'est la même chose, non?
La Saint-Valentin, ça revient tous les ans, que ça vous plaise ou non. Everybody's gonna love today, gonna love today, gonna love today. C'est le jour où votre vie amoureuse est rendue publique.
Je veux une douzaine de ces fleurs pour la fille la plus chouette de l'école.
C'est pour votre femme.
J'ai à peine 10 ans.
Oh, pardon, j'avais pas remarqué. Ça laisse toujours une place pour une histoire d'amour ou un désastre.
Donc, les comédies romantiques, les dessins animés Disney, l'immense majorité des séries, y compris policières et médicales.
Grey's Anatomy est la preuve qu'après avoir bossé 72 heures et entre deux lavements, on peut être frais, on peut être obsédé par le love.
Tout ce bordel n'est orienté que vers une seule chose, le couple, le mariage et les babies. Même scénario redupliqué à l'infini dans les rom-coms, la réussite ne passe que par le fait d'être en couple, être célibataire est un échec total et les femmes sont prêtes à toutes les stratégies ridicules pour faire croire à leur famille qu'elles sont casées, stratégies qui leur permettront, bien évidemment à terme, de se maquer avec le gigolo, le pote, le plan cul ou le top modèle aussi célib qu'elles ont engagé.
Un exemple au milieu d'un océan de possibilités, Mamma Mia, portée par une actrice aussi charismatique que Meryl Streep. Ça commence quand même par te présenter un personnage émancipé, atypique, la mère célibataire qui sait même pas qui est le père de sa gosse, qui vit très bien depuis 20 ans toute seule sur une île de rêve. Moi aussi je vivrais très bien là-bas d'ailleurs. Donc toute femme qui a passé plus d'un an à partager son toit, enfin plus d'un an, plus d'un week-end à partager son toit avec un homme, c'est que à 50 ans passés, en salopette toute la journée, propriétaire d'un hôtel blanc avec des volets bleus sur une île grecque. Chat, est-ce que tu vas tout foutre en l'air pour te foutre avec un poilu bedonnant qui ronfle et qu'il faut supplier pour sortir la poubelle ?
Certainement pas.
Bah, dans le film, si. Dans le film, si.
Moi, je dis fake news ! Après bien des chorégraphies grotesques, Meryl finit en couple à cause de sa propre fille, un stéréotype absolu de la société miso. La meuf se marie à 20 ans avec un mec et veut retrouver un père pour l'avoir à son bras à ses noces, alors qu'elle a très bien vécu sans jusque-là, tout comme tout le monde d'ailleurs.
Franchement. Petit aparté, si vous aimez ABBA, eh ben, vous êtes une bonne personne. Préférez Muriel avec Toni Collette, une fan d'ABBA et des années 70, mais qui vit dans les années 80, dénigrée par ses potes, méprisée par sa famille de merde et qui rêve que d'une chose, une robe blanche meringue, un mariage sur Dancing Queen. Ça a été son rêve de toujours, de toute sa vie, mais finalement, elle va vivre une histoire d'amitié qui dit « va chier » aux dictates du couple comme symbole de réussite. Moi, je dis « Mamma mia !» La rom-com est avant tout une affaire de babtou hétéro, même si cette industrie commence à se diversifier pour s'adapter au public plus woke qui peuple Netflix, elle continue de mettre en scène les mêmes normes de démonstration affective et de monogamie. Pas question de trouver romantique les codes gays de la non-exclusivité ou la pudeur dans l'expression physique des sentiments propres à des pays comme le Japon ou l'Iran. La rom-com est occidentale, ethnocentrique et bien évidemment hétérocentrée. Les dictats de beauté sont bien évidemment symptomatiques de ceux de la société. La rom-com met toujours en scène les mêmes stéréotypes, principalement celui qu'il est plus facile de vivre en couple que seul. Parce que notamment le couple te permettra, chat, l'acquisition d'un sublime manoir ou d'un immense château, alors que si t'étais toute seule, tu pourrais pas gérer l'entretien. Donc à vous les voyages, les soirées, les yachts, j'en passe, et des meilleurs. Dans ce but, il est essentiel d'être prête à tout accepter. Ressort incontournable du film ou de la série rom-com, le mec va merder au moment où tout semblait se mettre en place. Révélation d'un secret caché depuis le début ou dérapage dans des vieux schémas malentendus dus à des défauts de communication.
Quoi ? Des défauts de communication ? Non, mais n'est-ce pas un signe de virilité que de ne pas savoir communiquer ?
Bien sûr que si, chat, qui dit le contraire, certainement pas la rom-com. Quoi qu'il en soit, du coup, le mec merde, mais il va sauver la situation par un grand geste, bouquet géant, message écrit sur un panneau de tailles diverses, incruste au mariage alternatif de l'héroïne ou d'une de ses punes pour lequel elle avait besoin vital d'un plus one.
La liste est aussi longue que grotesque de ce qu'Hollywood appelle les grand gestures, censés permettre de reconquérir la femme, par un acte isolé et ponctuel qui ne présage rien de bon sur la gestion des conflits dans le quotidien routinier à venir. La rom-com s'achève sur une mise en couple, envers et contre tout, même si le mec est impiffrable. Mieux vaut être mal accompagné que seul, telle est la morale de la bonne rom-com des familles déterminée par les algorithmes. Every breath you take, an
Un stalker qui match chaque respiration que je prends, même après du camembert, chat. Voilà ce à quoi les rom-coms m'ont appris à rêver. On en aurait pour des heures si on se lançait maintenant sur tous les dessins animés qui sont structurés uniquement par la recherche de l'amour et qui conditionnent du coup les gosses dès le plus jeune âge à croire que c'est le principal but de toute existence, qu'on soit un lion, un rat, un ogre, un cow-boy en plastique, un grippin,
un capricorne ou un verseau.
À un âge où ce qui compte avant tout c'est l'amitié et les jeux, on nous montre qu'apparemment seul l'amour à deux, fusionnel, hétéro, peut abolir les frontières et nous pousser à nous dépasser. Tout ce qui est quête de savoir, lien de l'amitié, connaissance de soi en vue d'un bien-être personnel ou développement de compétences, tout ça, ça concerne avant tout l'épopée virile et encore, même Aragorn à son Arwen et Achille, son esclave sexuel Briseis.
Quant au champ des séries, il n'échappe évidemment pas au phénomène puisque l'immense majorité d'entre elles sont structurées uniquement autour de cette quête de l'amour qui est souvent annoncée dès le titre. Undateable, donc avec qui on ne peut pas sortir, Love, Sex and the City, et j'en passe.
Pour terminer sur la question du conditionnement à travers tout ce domaine culturel, on ne va pas résister à l'envie de dézinguer deux minutes là les émissions de télé-réalité du type 4 mariages et une lune de miel ou l'amour au premier regard, à un moment où en fait il y avait une sorte de baisse des chiffre du mariage, la télé s'est mise à vendre des programmes qui visent à le revaloriser en fait.
Et oui, enfin, le revaloriser c'est un bien grand mot, car voir quatre femmes s'inviter les unes les autres à leur mariage respectif dans l'espoir d'avoir une lune de miel gratuite, même au prix d'avoir des rivales et des caméras qui crachent sur ce qu'elles considèrent être le plus beau jour de leur vie, c'est quand même particulier.
Ouais, c'est clair. Que ce soit dans les émissions de shopping ou les soi-disant télé-réalités appuyées sur la science et qui consistent principalement à voir des gens renifler des t-shirts sales et se dire des platitudes sans se voir afin de trouver leur futur conjoint en une semaine. La télé a cherché à vraiment relancer une industrie ultra problématique qui nous fait dépenser des milliers de cents pour une seule journée, une seule robe plus jamais portée, avec tous les déchets qui vont avec.
Merci le capitalisme qui voit dans nos unions une énième stratégie pour nous faire consommer.
Quand ça va pas, quand ça va trop loin, on se lève, on se casse.
Et parce que fuck you la Saint-Valentin et fuck you le capitalisme qui aime vendre des robes de mariée chez Christina Cordula et TF1 et fuck you les restos qui nous disent non à une table pour un ou une, on ira se bourrer la gueule dans les bars pendant que vous vous regardez dans le jaune des yeux. Charbons Ardents vous propose quelques alternatives culturelles à l'amour blanc, à l'amour hétéro, à l'amour exclusif, à l'amour marketing, à l'amour tout court.
Enfin, sauf à l'amour de soi, c'est bien ça l'amour de soi.
Et des potes.
On commence par bouquiner avec une BD, Les Sentiments du Prince Charles de Liv Strömquist, qui est parue en 2012 en France. Dans ce roman graphique hilarant, l'autrice utilise la sociologie et son dessin bien à elle pour nous montrer tous les stéréotypes qui pèsent sur notre construction, et cela dès l'enfance. Elle met aussi en évidence qu'on a tellement installé l'amour sur un piédestal, qu'on impose tellement cette vision très jeune aux enfants dans tous nos modèles socioculturels, voire même politiques, car il n'est pas bon d'être célibataire quand on veut être élu, qu'on en a fait une religion.
En roman, on vous recommande l'incroyable Herland de Charlotte Perkins Gilman, qui est un roman qui est paru en 1915. Imaginez, au milieu d'une vallée refermée sur elle-même, une société utopique vit sans homme depuis 2000 ans. Les femmes s'y reproduisent par parthénogénèse. L'amour qui est mis en avant, c'est celui de la collectivité, de la famille, de la maternité et de la sororité. Donc l'histoire commence avec l'arrivée de trois déclinaisons de masculinité toxique et qui va les pousser à s'interroger sur le bien fondé de laisser les hommes revenir parmi elles et de redevenir une civilisation qu'elles appellent bigenrée. Il est à noter que sans hommes pour les enchaîner au foyer et à l'obligation d'avoir des enfants à la chaîne, les femmes pratiquent une politique de restriction des naissances qui profite à l'environnement, donc l'autrice y a pensé dès 1915. Et sans conjoint de qui être l'esclave, elles ne ressentent plus ni irritation ni colère.
Étonnant. Contrairement aux clichés qui voudraient qu'on se déchire quand on est entre nous, cliché qu'on nous a fait intégrer depuis l'enfance, et qui fait que beaucoup de femmes se vantent de n'avoir que des amis masculins et de ne pas supporter les autres meufs et leurs histoires, comme si c'était un haut fait.
Dans le roman, la relation suprême, c'est celle de l'individu avec la collectivité, et la collectivité elle-même entretient des relations saines au monde qui l'entoure. Donc quand on sort en fait de la bulle exclusive et surtout excluante du couple à deux, on se rend compte que ça peut profiter à toute l'humanité.
Plus réflexif, allez donc voir le documentaire de 2016 d'Alice Diop intitulé « Vers la tendresse, César du meilleur court-métrage ». Elle y propose une analyse fine des différentes nuances du rapport à l'amour chez les 6-7 non-blancs. Oui, parce qu'encore une fois, l'amour qu'on voit partout, c'est celui inventé par les occidentaux blancs. D'autres manières de le vivre, de l'exprimer, de le ressentir, on ne nous en propose pas, on ne leur laisse pas la place d'exister.
Quand tu grandis dans une cité, t'as une certaine... Les filles, c'est... c'est d'un côté, on va dire. Tu vois, pour les mecs, c'est d'un côté, nous, on se mélangeait pas par rapport à la génération de maintenant. On sortait pas, nous, avec des filles et tout. Et à force de rester entre mecs et tout, entre potes, après, quand t'arrives dans des situations où il y a des nanas et tout, tu vois, je réagis mal, peut-être, tu vois. Tu sais, mais j'ai pas de sœur, j'ai pas, tu sais, je peux pas, je sais pas c'est quoi une femme, en vérité. C'est ça. Je sais pas ce que c'est, tu sais pas... Tendresse, comme tu parlais de tendresse tout à l'heure, la seule tendresse que j'ai eue, c'est celle de ma mère.
Le docu est en deux parties. La première suit l'errance de quatre jeunes hommes qui sont racisés dans des espaces de banlieue. On va les suivre jusqu'à Bruxelles où ils vont payer des travailleuses du sexe. Par-dessus les images, la réalisatrice fait passer les voix de quatre autres hommes qu'elle a interrogés sur leur rapport à l'amour, mais aussi aux femmes et aux démonstrations d'affection. La deuxième partie du documentaire entrelacé est consacrée au meilleur ami de la réalisatrice et à son parcours de vie en tant qu'homosexuel noir dans une banlieue. Il y explique le rapport des hommes autour de lui à sa sexualité et à la leur, leur violence, leur homophobie, leur bisexualité et homosexualité refoulée, le transfert de leur frustration sur lui par des violences. Et en fait, elle montre que le modèle dominant qui est hétérosexuel et blanc crée des écarts destructeurs et très malsains.
En série, on vous propose aujourd'hui d'aller mater des exemples de relations alternatives. Les séries qu'on cite ici sont moins intéressantes pour leur scénario et dans leur globalité que parce qu'elles proposent enfin de représenter d'autres manières d'être avec les autres, en couple, en amitié, dans nos orientations sexuelles, pratiques et identités de genre. Dans The L-Word, outre la représentation du monde lesbien, on peut trouver des interrogations sur la bisexualité et ses nuances, sur ce qu'est un homme lesbien, sur l'imposition de l'hétéronorme et de l'exclusivité au couple homo. Dans Sense8, le lien qui unit les protagonistes nous interroge aussi sur la possibilité du charnel hors du couple, sans connotation reproductrice ni pornographique. On trouve des couples gays, lesbiens, hétéros, des personnes cis, des personnes trans. L'exemple de Dani, actrice amoureuse de deux gays en couple et qui finit par former avec eux un trouple sans relation sexuelle, montre bien l'immense diversité des possibilités relationnelles entre les êtres humains. Le fait d'avoir proposé une grande diversité raciale est aussi une confrontation à des modes d'être un peu moins ethnocentriques que d'habitude, même si ça reste très limité et très marqué par un regard blanc. Pas de série parfaite donc, mais la représentation commence à bouger et c'est un bon début.
J'aimerais finir par promouvoir l'extraordinaire Playing House, la série malheureusement annulée de Lennon Parham et Jessica Sinclair, qui interprètent les rôles principaux. Donc Maggie et Emma sont amies d'enfance. Emma a quitté leur ville d'origine pour poursuivre ses rêves de carrière dans la finance en Chine et elle revient voir sa pote Emma puisqu'elle est enceinte. Et c'est le moment où elles vont se rendre compte que l'ami de Maggie la trompe et est juste un gros nul. Et donc Emma décide de s'installer avec Maggie et elles vont élever l'enfant en collaboration sororale, donc ça montre aussi un nouveau modèle de couple, en fait un lien alternatif au familial traditionnel qui repose sur l'amitié. Les deux meilleurs potes sont ultra hilarantes, moi perso ça me fait rêver.
Can I ask you a quick nursing question?
Yeah, shoot.
Do penises age?
Oh, if I had a nickel. The short answer is yes. The long answer, much more complicated, you know, based on penis size or shape or whether there's been a traumatic event or even just natural slope.
A slope?
Yeah, sometimes a penis can take a slope to the right or to the left. If you're lucky, it goes up.
Oh.
Et la liste des possibilités alternatives commence malgré tout à s'allonger. Et heureusement, Sex Education, Fleabag, Euphoria, autant de séries qui montrent la fluidité des frontières dans les orientations sexuelles ou la possibilité de ne pas rentrer dans le modèle de la meuf maquée, délicate, gentille et douce, méritant du coup d'être heureuse avant 30 ans et muette après. Et pour changer des séries, on peut basculer sur des jeux vidéo. Pour sortir un peu de l'hétéronorme, on vous conseille aujourd'hui trois jeux qui proposent soit des relations homo de Dream Daddy, où vous incarnez un papa célibataire et gay en quête du love.
Soit des relations bi, lesbiennes et homo, avec des personnages de genre diversifiés, y compris un chat.
Oh le rêve!
Battez-vous pour choisir avec laquelle de vos épées vous finirez par sortir dans Boyfriend Dungeon. Vous pouvez retaper votre ferme et choisir avec qui vous allez vouloir sortir au village, qu'importe son genre, qu'importe le vôtre, dans Stardew Valley. Bon, vous pouvez aussi sortir avec personne, hein, bien sûr. Perso, c'est pas pour me vanter, mais j'ai pêché Léa, artiste peintre, en lui offrant très régulièrement des bouteilles de vin rouge de mon vignoble perso.
Astucieux, ma foi. Pour terminer, parce qu'on aurait encore bien des références à vous proposer pour nous sortir de l'exclusion du couple, allez écouter le podcast Camille, consacré à l'hétéronormativité, produit par Binge Audio et animé par Camille Régache.
Et si vous vous sentez dépassé par la charge mentale, faites un petit détour par les réseaux en allant lire les témoignages de Ta Pensée A. C'est à la fois réconfortant pour la solidarité et terriblement déprimant sur le chemin qui reste encore à parcourir.
Les mots savent de nous des choses que nous ignorons d'eux.
Dans cette rubrique de charbons ardents sur Prune, on fait de la lexicologie, de la linguistique, on dégaine les dictionnaires, piou-piou ! Parce que les mots qu'on emploie jour après jour, ce qu'on nous apprend avant même de nous enseigner à réfléchir, ces fichus agencements de lettres et de syllabes sont minés et pleins de pièges. Le mot du jour, on s'en méfie, et on va voir qu'il y a plein d'alternatives.
Et oui, et sans grande surprise, le mot du jour est... couple ! Couple, un mot qui est bien loin de signifier ce qu'on lui associe. Deux possibilités. Au masculin, le couple est tout bêtement un ensemble de deux choses, principalement deux animaux pour la procréation, mais aussi deux êtres unis par les liens des sentiments ou des intérêts communs. Mais étrangement, au féminin, la couple désigne le lien utilisé pour attacher deux chiens de chasse ensemble.
Sympa !
Dans les deux cas, l'origine remonte au latin copula.
Sion.
Subtil chat. Bah oui, ouais, copulation, ouais. Copula, de base, ça veut dire aussi bien lien que chaîne.
Ça donne envie ! Et un couple d'eux, ça veut concrètement dire un peu d'eux, donc ça renvoie bien à une bulle réductrice par rapport à l'ensemble de la communauté.
Fais gaffe, on va nous traiter de communautaristes !
Le couple est un communautarisme ! Regarde en face la définition de célibataire, solitaire et privé d'affection.
Ouais, ok, ultra, ultra stigmatisant.
Alors oui, on peut être solitaire et privé d'affection, ça arrive. On peut aussi l'être en couple d'ailleurs. C'est pas parce qu'on est hors relation dite amoureuse qu'on est solitaire et privé d'affection.
Amen ! Il nous faut un nouveau mot, envoyez vos propositions.
Les alternatives linguistiques qu'on vous propose nous viennent du monde des polyamoureux, preuve que quand on veut créer de nouvelles catégories, eh ben on peut.
Preuve aussi qu'il faut faire bouger ce fameux langage que tout le monde veut garder en place et empêcher d'évoluer quand on veut faire bouger les mentalités.
Plutôt qu'un lien de chien de chasse, plutôt que le couple, vous pouvez par exemple être en trouple. Le mot est de plus en plus répandu et ne désigne pas l'occasionnel plan à trois, ni le très connoté « ménage à trois ». Rien que le mot « ménage » pour désigner le couple d'ailleurs, ça aussi on aurait bien des choses à en dire, vu ce que ça connote de charge mentale.
Dans le vocabulaire polya, on peut trouver des termes tels que « métamour », ça désigne l'autre compagne ou compagnon de notre compagne ou compagnon. L'ensemble des relations qui se nouent entre plusieurs individus de manière directe ou indirecte, ça forme ce qu'on appelle une constellation, terme quand même vachement plus stylé qu'une chaîne pour chien de chasse ou que copulation. On y trouve aussi mon préféré perso, la compersion. La compersion désigne le sentiment qui naît lorsqu'on se réjouit du bonheur d'autrui. Donc dans le contexte polyamoureux, c'est le bonheur de son ou sa partenaire avec quelqu'un d'autre.
C'est beau. Ça montre aussi à quel point on induit, avec ces termes qui existent déjà, de nouveaux types de relationnels. La liste est longue de ces mots, polycule, ENR, ELR. On vous invite à consulter sur le sujet des dictionnaires polyamoureux en ligne. La compersion, c'est quelque chose qu'on peut ressentir aussi dans le couple ou dans le célibat. Des valeurs qui sont donc transférables, quel que soit le cadre relationnel qu'on finira par se choisir quand on aura bien déconstruit tous nos diktats.
Si la terminologie est vaste, c'est parce qu'elle implique aussi une communication qui est saine en fait. Une communication qui utilise des mots. Une communication sur laquelle se base le consentement et l'harmonie entre les membres qui sont impliqués dans ces relations. Donc on y voit là le souci de l'écoute à l'autre, la nécessité d'avoir un langage qui s'adapte aux besoins et aux cadres de pensée, mais pas l'inverse.
On peut d'ailleurs mentionner en passant le concept d'anarchie relationnelle. Il s'agit d'un système où les personnes choisissent de multiplier les relations sans jamais les diviser ni les comparer, et de questionner sans cesse l'amour et ce qu'on met derrière cette vaste notion. Parce que chaque relation est unique et qu'on peut aimer plusieurs personnes sans que cela ne vienne diminuer nos relations avec les autres, en fait. Le concept va cependant plus loin en partant du principe qu'il n'est pas nécessaire de faire de distinction formelle entre les relations sexuelles, romantiques, intimes ou même platoniques. Mamour, BFF et Tante Jacqueline, bah tout le monde est au même niveau.
Il y aurait aussi fort à faire à parler des alternatives à l'hétéronorme qui polluent notre vision du couple, les asexuels abstinents, abstinentes, célibataires volontaires, les pansexuels, les bisexuels, etc. Mais on n'a pas le time. Dans la boîte à outils de charbons ardents, on donne d'habitude la parole à quelqu'un qui fournit de son énergie, de son temps et de son argent pour faire bouger les choses autrement, et pourquoi pas vous donner envie de vous impliquer, mais à votre façon bien à vous.
Une fois n'est pas coutume, on a coupé sur l'interview pour parler plus sur la théorie, trop de choses à dire. Mais si l'émission n'a pas étanché votre soif de savoir, retrouvez-nous sur Insta pour partager d'autres références entre d'eux-mêmes.
On se retrouve le mois prochain pour parler cette fois de ce que la société étiquette comme les fameuses maladies de femmes, réservées aux fameux sexe faible.
Pas les maladies d'amour de Sardou.
Si vous souhaitez partager votre expérience sur le sujet, règles douloureuses, endométriose, parcours de santé, violence obstétricale, toutes ces fameuses discriminations dont est capable le milieu médical, notamment vis-à-vis des personnes afables en transition, pour vous libérer, mais aussi pour faire prendre conscience à d'autres auditeurs, auditrices qui, elles, ne sont pas seules.
Pour nous contacter, rien de plus simple, sur le site de Prune, en remplissant le formulaire anonyme présent sur notre page de contact, ou directement en message privé sur Instagram. À tout bientôt! Pour rester sur des charbons ardents, retrouvez le podcast de l'émission sur www.prune.net.